France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils s'éveillent aux premières odeurs du printemps, hein, un peu comme des petites fleurs dans la prairie de l'actualité. Quel bouquet! Enfin, une fois les bonnets, les gants, les soupules, les pulls, les pantalons fuseaux, les cache-nez, les protèges-oreilles, les protèges-nez, les gros chaussettes accompagnées de pneus neige enlevés, puisque c'est le printemps, hein. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Valérie Rabault. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée socialiste de Tarn et Garonne, également l'économiste Robin Rivaton, bonsoir.
Bonsoir.
Vincent Trémollet, bonsoir, du Figaro.
Bonsoir.
Et Christophe Alix, bonsoir, de
bonsoir,
Libération.
Jean-Mathieu.
Et ce soir, nous parlerons de Paris sans ticket, du recul gouvernemental à petits pas, de mobilisation également du 22 mars. Mais juste avant, nous recevons Geoffrey Le Guilcher. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes journaliste indépendant, vous avez notamment collaboré à Mediapart, également aux Inrecuptibles. Alors, généralement, quand je dis Mediapart aujourd'hui, ça doit amener vers un sujet, c'est bien sûr sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy, convoqué depuis 8 heures ce matin dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. Alors que l'ancien président de la République passait son temps à donner des conférences, à écouter chanter sa femme et à passer un savon à Laurent Wauquiez par téléphone, voilà que ressurgit cette enquête. Alors Geoffroy Le Guilcher, pourquoi maintenant ?
Maintenant, ça c'est le calendrier qui a été décidé par les enquêteurs, donc les policiers de Locklif. Mais c'est l'aboutissement d'une longue enquête, ça fait près de 11 ans maintenant,
11 ans, hein.
Que voilà, les faits sont passés. Donc d'ailleurs c'est tout l'argumentaire qui est déployé aujourd'hui pour dire mais pourquoi 11 ans après ça arrive maintenant. C'est juste, ils estiment qu'ils ont suffisamment d'éléments pour le placer en garde à vue et le confronter à leurs propres éléments.
D'accord, alors en tout cas, Pinson est toujours en garde à vue. Il faut savoir qu'une garde à vue, ça peut durer 48 heures, hein, donc ça pourrait aller jusqu'à jeudi matin. Alors, par rapport à cette affaire, tout a commencé en 2012, quand le site Mediapart publie un document libyen faisant état d'un financement par la Libye de Mohamed Kadhafi de la campagne de Nicolas Sarkozy. En novembre 2016, en pleine primaire du Parti des Républicains, l'intermédiaire Ziad Takieddine avait affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris entre fin 2006 et début 2007, avant de les remettre à Claude Guéant, puis à Nicolas Sarkozy. C'est ce qu'il affirme, en tout cas. Takieddine est depuis mis en examen, et cet épisode avait fait l'objet d'un face-à-face tendu entre Nicolas Sarkozy et David Pujadas lors d'un débat de la primaire de droite. Souvenez-vous, ça donnait ça, c'était légèrement tendu. Nous étions en novembre, donc, 2016.
Nicolas Sarkozy, avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais à la justice française hier aussi.
Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
Vous en avez parlé vous-même hier soir.
Vous n'avez pas honte de donner écho à un homme qui a fait de la prison, qui a été condamné à d'innombrables reprises pour diffamation et qui est un menteur. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte.
Voilà, donc Nicolas Sarkozy, c'était en novembre 2016. Geoffroy Le Guilcher, le nom cité, Ziad Takieddine, c'est lui, justement, qui a déclenché véritablement, ou pas aujourd'hui, cette garde à vue, Nicolas Sarkozy.
Non, ce qui a vraiment tout initié, c'est ce que vous avez rappelé au début, c'est la publication le 28 avril 2012 du document par Mediapart. Donc c'est une note qui prévoit une entente qui aurait été fixée entre un dignitaire libyen et Brice Hortefeux à l'époque, et qui parle de 50 millions d'euros. C'est ça qui a tout D'accord. déclenché, c'est à partir de là. Après, Ziad Takieddine, au départ, lui, il nie. C'est juste qu'en fait, on trouve ses documents, parce qu'il est perquisitionné, et sur son ordinateur, il y a des milliers de notes. Il préparait les entretiens, et c'est à partir de ces documents que le dossier va être nourri, mais lui... C'est bien plus tard, c'est en 2016 qu'il commence à changer de version et à dire « bon, ok, j'ai participé ». Et il raconte trois remises de mallettes, deux à Guéant et une à Sarkozy en personne. Voilà, c'est sa version de 2016.
Vincent Trémollet, ce matin, quand vous avez appris ça, vous-même en tant que journaliste, est-ce que vous êtes dit « tiens, voilà, finalement, on n'en termine jamais, ça y est ». C'est reparti sur Nicolas Sarkozy.
On a des sentiments mêlés. D'abord, moi, sur l'affaire, je connais pas le dossier. Hein, je me suis pas plongé dedans comme monsieur. Ce que je ne comprends pas, mais c'est par pure déduction, c'est comment, si ce financement a eu lieu, Kadhafi, avant la déclaration de guerre, puis la guerre, n'a pas fait de déclaration ou fait fuiter dans un certain nombre de journaux des preuves de ce financement. À partir du moment où il y avait une possibilité de mortelle, pour lui, ce qui est d'ailleurs arrivé, pourquoi. Je me souviens qu'il y a eu une interview notamment d'un journaliste français, je crois que c'est Vincent Hervouet qui était allé à Tripoli, pour passer une heure et demie avec lui. Pourquoi à ce moment-là il ne le dit pas? Pourquoi il ne le diffuse pas dans un journal? C'est une chose que je n'ai jamais très bien compris.
Geoffrey Guichard.
Alors ça c'est très intéressant parce que vous travaillez au Figaro,
oui.
Et que une journaliste du Figaro, qui est Prix Albert Londres, qui s'appelle Delphine Minouy,
oui.
A interviewé Kadhafi à l'époque, et Kadhafi lui dit. Et Monsieur Moujotte, à l'époque, lui cisaille cette partie de l'interview, ce qui sera révélé plus tard par Le Canard Enchaîné, puis elle-même dans un documentaire, parce qu'elle va revenir sur cette affaire. Donc voilà, ça c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est pas sorti à l'époque.
Je connaissais pas cette histoire, mais mettons qu'elle soit juste, il y a d'autres organes de presse. C'est ça que je...
Bah ça a été dit, il y a à l'époque Kadhafi le dit à la télé, il y a Saïf al-Islam qui le dit, mais ils sont en train de lutter, il y a la guerre qui commence à ce moment-là, parce qu'au début... Pourquoi est-ce qu'il y a une mésentente? C'est dans le cadre de la guerre que eux lâchent ce secret. À la base, c'est pas un secret qui est fait pour être éventé. Il y a deux parties. Les deux y ont intérêt et voilà.
Valérie Rabault, juste, vous, votre point de vue sur ces financements, pas sur l'affaire, mais elle-même, la justice, mais sur ces financements. Voilà, on voit un homme, Nicolas Sarkozy, qui a un calendrier judiciaire assez chargé. Il y a celle-là, il y a aussi Big Malion, il y a l'affaire des écoutes. Pour vous, ces choses-là, c'était quoi? C'était de l'ancien monde, quelque chose de classique, d'aller trouver de l'argent pour essayer de financer des campagnes?
Je n'en sais rien. Non, mais sincèrement, vous me posez une question à laquelle je ne suis pas capable de vous répondre.
D'accord, parce que quand même, tout de même, c'est un personnage aujourd'hui, ancien président de la République.
Ce qui est sûr, c'est que normalement, les comptes de campagne, la commission des comptes de campagne fait quand même un travail très précis. Tout est vérifié. J'imagine que c'est encore c'est le cas pour les élections législatives. C'est aussi le cas pour les élections présidentielles. Donc si c'est le cas, je ne sais pas comment c'est passé entre les mailles du filet. Enfin, en tout cas, je ne suis pas capable de répondre à votre question.
Très bien. Bon, et ben on va quand même y revenir juste un tout petit peu quand même dans un instant. L'info à 20h10, c'est Stéphane Milhomme.
Et la SNCF suspend la vente de ses billets pour tous ses TGV et intercités sur les 12 jours de grève prévus en avril. Les voyageurs sont invités à reporter leur voyage, une précaution avant cette grève contre la réforme du ferroviaire. 2 jours sur 5 décidés par les syndicats du 3 avril au 28 juin prochain. Plus de 12 heures de garde à vue pour Nicolas Sarkozy. Après déjà 5 ans d'enquête, l'ancien chef de l'État doit s'expliquer aujourd'hui sur un financement possible par la Libye de sa campagne présidentielle de 2016. Mediapart avait publié en 2012 un document avançant que Kadhafi, le régime de Kadhafi, avait promis 50 millions d'euros aux candidats de la droite. Face à des bombardements du régime de Damas, au moins 29 civils ont été tués ce soir à Douma, chef rebelle dans la Ghouta orientale. Un tir de roquette, cette fois sur la banlieue de Damas, aurait fait au moins 35 morts selon la télévision d'État. Elle accuse au passage les rebelles d'avoir tiré cette roquette. Une nouvelle fusillade dans un lycée des États-Unis, dans le Maryland, le tireur, un lycéen, est mort des suites de ses blessures. Il a eu le temps avant d'être neutralisé de blesser gravement 2 autres camarades. Et puis 30 mesures pour la francophonie sous les dorures de l'Académie cet après-midi. Emmanuel Macron a déclaré qu'il souhaitait doubler le nombre d'élèves dans les lycées français à l'étranger. Ils sont actuellement près de 350 000 jeunes dans 500 établissements à travers le monde.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, Nicolas Sarkozy est donc en garde à vue depuis ce matin, 8h, dans l'affaire d'un possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle de 2007. Ancien président de la République, ancien dirigeant des Républicains, Nicolas Sarkozy met son camp ce soir dans l'embarras et la plupart sont sur la même ligne. Les magistrats ne sont vraiment pas chouchou avec lui. Le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Christian Jacob.
Objectivement, ce qui surprend pour le moins, c'est ce que je considère comme de l'acharnement. Et honnêtement, on l'a vu après l'affaire Bettencourt. Je veux dire, 11 ans après, à quoi tout cela rime? En tout cas, ce que je veux assurer, c'est assurer de Nicolas Sarkozy à la fois de toute l'amitié et de tout le soutien du groupe des députés républicains dans ce moment qui n'est pas facile et qui a un côté, disons-le, assez surréaliste.
Voilà, Christian Jacob ce matin, Christophe Alix, surréaliste. C'est une défense classique?
Oui, c'est une défense classique, on la voit très souvent, enfin à chaque fois c'est comme ça. Effectivement, Laurent Wauquiez a dit, mais Nicolas Sarkozy a obtenu un non-lieu dans l'affaire Bettencourt, donc ça pourrait être...
On voit pas le rapport d'ailleurs.
Voilà, on ne voit, il y a absolument aucun rapport, voilà, il y a plusieurs affaires. Si les juges d'instruction ont convoqué Nicolas Sarkozy, l'ont mis en garde à vue, ben c'est parce que sans doute ils ont des éléments et des questions à lui poser. Donc bon, c'est toujours difficile dans ce pays de s'habituer à une indépendance de la justice, à essayer de sortir de toutes ces idées d'instrumentalisation. Il me semble qu'on progresse un peu, mais enfin, on a encore là, on voit des réflexes classiques, même s'il faut souligner qu'il y a un certain nombre de responsables de la droite qui ont surtout dit que c'était à la justice de faire son travail dans cette affaire. Donc,
Geoffroy Le Guilcher, il y a un homme qui a pris la défense de Nicolas Sarkozy aujourd'hui, c'est Claude Guéant. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure défense qui soit pour l'ancien président de la République, puisque Claude Guéant est cité aussi dans cette affaire. Il y avait aussi Brice Hortefeux qui a été entendu. Pourquoi Brice Hortefeux, Claude Guéant, eux-mêmes, ils sont vraiment... C'est des noms que l'on retrouve depuis le début.
Alors, Brice Hortefeux, par exemple, il est cité dans la fameuse note qui déclenche toute l'affaire, qui est publiée en 2012. Ensuite, Claude Guéant, par exemple, dans l'affaire, pour prendre des cas très concrets, on a retrouvé la trace d'un virement de 500 000 euros sur ses comptes en banque. Donc le fil a été tiré, ça passe par un Saoudien, puis par un gestionnaire de compte qui est en lien avec Bachir Saleh, qui était le numéro 3 du régime Kadhafi, qui a été accueilli en France après la guerre, et pendant la guerre même, et qui était recherché par Interpol, qui est vu dans Paris. Et au moment où, en fait, Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, à deux jours du second tour de la campagne présidentielle de 2012, disent, voilà, sur des plateaux télé et des radios, si on le voit, on l'arrête, il est évacué par Bernard Squarcini, qui est patron des services secrets à l'époque, vers l'Afrique du Sud. Ça a été recoupé par des éléments téléphoniques que les enquêteurs ont recoupés, où ils ont vu que c'était lui qui avait organisé ça, par exemple.
Une chose, Geoffroy Le Guilcher, juste pour être bien clair, en 2007, si ces faits sont avérés, à quoi il sert ce financement libyen? C'est pour donc la campagne?
Il y a beaucoup de pistes qui ont été creusées. On retrouve beaucoup de cash dans la campagne. Eric Woerth, qui était trésorier, le justifie en disant oui, mais c'était une multitude de dons. Mais voilà, on a retrouvé du cash à cet endroit-là. Claude Guéant utilisait beaucoup de cash. C'est aussi ce qui est ressorti d'un rapport d'enquête. Il faut savoir qu'entre 2003 et 2012, de son compte bancaire, Claude Guéant n'a tiré que 800 euros.
Ouais, c'est vrai qu'il est peu dépensier.
Donc il fonctionnait beaucoup en cash. Et visiblement, il a aussi acheté un appartement, mais on ne sait pas. Il va falloir laisser l'enquête. Il est en garde à vue, Nicolas Sarkozy. Il n'est pas encore condamné, il n'est pas encore mis en examen. Mais voilà, il y a plein d'éléments comme ça qui ont été creusés. Si financement il y a eu, 50 millions d'euros, c'était pas uniquement pour la campagne.
D'accord. Une chose politique tout de même, Vincent Trémollet, est-ce que c'est embarrassant pour les Républicains ce soir où ils essayent, on le voit, Laurent Wauquiez a dit que c'était une garde à vue humiliante et inutile. C'est compliqué pour eux à gérer, ou est-ce que ça peut laisser des traces aujourd'hui la page Sarkozy est tournée?
Il faut voir jusqu'où ça va, en fait. C'est-à-dire que le moment de la garde à vue n'est pas un moment agréable pour eux. À partir du moment où il va sortir de la garde à vue, on va voir ce qui va se passer, s'il y a une mise en examen, s'il est témoin assisté, s'il n'y a rien du tout. Et ensuite, ça va reprendre le cours des affaires judiciaires qui sont longues. Ensuite, Nicolas Sarkozy est un pré-retraité de la politique, oui. Donc il n'a pas... Alors ce qui est intéressant dans ce qu'on voit, sur le plan presque politique et médiatique, c'est l'attraction qu'il exerce. C'est-à-dire que c'est une espèce de personnage de western où à partir du moment où il y a Sarkozy, tout s'arrête et on y revient comme s'il était encore au pouvoir.
En même temps, le président en garde à vue, un ex-président
en garde à vue... C'est un événement important, mais enfin, il y a quelque chose qui tient de l'attraction médiatique supérieure aux autres hommes politiques. Donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, mais je crois pas... On lui donne un rôle de parrain, vous savez, à droite, qu'il faut aller consulter pour savoir si on va faire ceci ou cela. Je pense que c'est quand même quelqu'un dont la carrière politique est maintenant derrière lui.
Oui, Geoffroy Le Guilcher.
C'est vrai qu'on disait déjà ça après sa défaite de 2012, mais il a tenté de revenir au pouvoir l'année dernière. On pourrait dire qu'il s'est quand même lui-même remis dans l'arène politique.
C'est un pré-traité récent. Il joue le rôle de celui qui y est encore, parce que c'est mieux pour exercer une influence que de jouer le rôle de celui qui dit j'ai terminé.
Il s'est fait sortir l'année dernière.
Mais je ne crois pas qu'en politique électorale, en tout cas, il puisse avoir un quelconque rôle.
Et de toute façon, on aura l'occasion, bien sûr, d'en reparler. On attend de savoir quel est le sort de Nicolas Sarkozy. Ça pourrait durer jusqu'à jeudi matin. Merci beaucoup, Geoffroy Le Guilcher. J'imagine qu'on fera de nouveau appel à vous, en tout cas, parce que c'est une enquête qui a l'air assez longue et tumultueuse. Merci, en tout cas, d'être passé ce soir aux informés de France Info. Allez, on va revenir à la politique française pure et notamment sociale, puisque dites-moi à propos d'En Marche, a-t-on essayé En Marche arrière? C'est une idée qui m'est venue ce matin. Je me suis dit que je pourrais le dire à la radio. Alors, on ne sait pas si c'est propos ont bien été tenus par Édouard Philippe, mais il y a bien eu une petite reculade ce matin, une reculette même, explique-t-on dans les milieux autorisés, à propos de la CSG. Vous savez, la hausse de la CSG entrée en vigueur en début d'année en contrepartie de la suppression d'une partie de la taxe d'habitation, enfin pour la taxe d'habitation, et dans un geste d'apaisement, il annonce donc son intention de corriger ce dispositif, du moins pour les 100 000 ménages dont le revenu fiscal de référence se situe juste en dessous du seuil retenu pour cette augmentation, soit 14 404 euros. Cela sera-t-il suffisant pour calmer la grogne de nos aidés qui remettent le couvert le 22 mars? Eh bien, quand ils ont manifesté déjà début mars, c'était pas trop ça. On écoute Monique qui manifestait d'ailleurs à Paris.
Trop, c'est trop. Ce prélèvement de la CSG comme ça, c'est de l'argent qu'on doit avoir. On a travaillé, en ce qui me concerne, 41 ans, pas une journée aux assédiques. C'est de l'argent qu'on me doit, on doit me le rendre. Macron et le gouvernement, ce sont des voleurs, ils font du racket.
Bon, voilà, donc, parole donc de retraités. Robert Yvaton, c'est une reculade de la part du gouvernement pour, voilà, parce qu'il sentait que les retraités, c'était quand même voilà, le sujet prégnant.
Bah, il y a eu deux séquences. Il y a eu celle où le président de la République a longuement essayé d'expliquer sa politique à quelques retraités dans la rue.
On s'en souvient, oui.
Voilà. Et puis là, cette intervention du Premier ministre qui a fait quand même un geste à la fois dans les mots et dans le fond, parce que ce qu'on avait vu quand même ces derniers temps, c'est qu'un certain nombre de députés ou de porte-parole du parti n'avaient pas forcément trouvé les bons mots ou la bonne façon d'expliquer ça. L'argument de justice générationnelle qui peut trouver un fondement scientifique ou un fondement économique et qui est réel. Malheureusement, en politique, il a du mal à se faire entendre. Et quand on entend la perception qu'ont une partie des retraités de ce sentiment de spoliation, on a beau expliquer par le menu que la retraite à la française n'est pas une retraite par capitalisation et que c'est pas ce qu'on a travaillé au cours de sa vie qu'on doit le toucher lors de la liquidation de sa pension de retraite. Encore une fois, c'est pas ce que perçoivent les gens et la cote de popularité du couple en apathie. Notamment chez ces personnes les plus âgées.
Valérie Rabault, pour vous, c'est quoi ce gouvernement?
Non, mais c'est, je pense que Édouard Philippe là, se moque vraiment du monde. Il parle de 100 000 personnes. Je rappelle quand même qu'il y a 8 millions de retraités qui ont vu leur CSG augmenter. Donc lui dit on va faire un geste pour 100 000 personnes, mais il y a 8 millions de personnes qui ont payé plus de CSG au mois de janvier.
Mais eux, ils disent qu'il y a plus de taxes d'habitation, ça va compenser.
Non, mais c'est pas le cas. Vous regardez département, il faut le regarder de manière très fine. C'est absolument pas le cas pour tout le monde. Donc il y a bien une hausse de CSG et je suis pas d'accord avec ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire que les retraités perçoivent l'injustice parce qu'ils ont vu qu'il y avait la suppression de l'ISF. Ils ont vu qu'il y avait la création de la flat tax. Donc ils se disent, pour les patrimoines les plus élevés, le gouvernement fait des gestes. Et pour nous qui avons 1400 euros ou 1300, enfin ça dépend des seuils.
Ça n'existe pas les retraités à l'ISF.
De retraite par mois. Bravo. Eh bien, on a une hausse de la CSG.
Alors
je rappelle, puisque vous parlez des retraites élevées, nous avions dit qu'il fallait que cette hausse de CSG ne s'applique pas en dessous de 3 000 euros. C'était un seuil que nous avions mis, un amendement que nous avons porté. 3 000 euros, c'est le prix d'une maison de retraite à Paris.
On va en parler.
Et la manière dont nous l'avions calibré, c'est de dire il ne faut pas toucher au montant qui permet de payer une maison de retraite.
Allez, on va en parler dans un instant. L'info à 20h21, Stéphane Milhomme.
Cambridge Analytica annonce la suspension de son patron ce soir, quelques heures après le scandale sur Facebook. Le cabinet d'analyse travaille pour la campagne électorale de Trump, c'était le cas en 2016. Il a pu collecter les données privées de 50 millions d'utilisateurs du réseau social. Donald Trump a pris son téléphone et félicité Vladimir Poutine pour sa réélection dimanche dernier à la tête de la Russie. Les chefs d'État américains et russes ont discuté d'une possible rencontre, notamment pour parler limitation dans la course aux armements. Nicolas Sarkozy toujours en garde à vue depuis 9h ce matin. L'ancien président de la République est toujours interrogé dans les locaux de l'office anti-corruption de Nanterre. Il doit s'expliquer sur les conditions du financement de sa campagne électorale de 2007. Financement possible par la Libye. L'ancien ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, est lui interrogé dans le cadre de simples auditeurs libres. Le taux de chômage en France devrait se stabiliser à 8,9% d'ici le milieu de cette année, avec déjà une forte baisse fin 2017. Selon l'INSEE, l'économie française créerait environ 110 000 emplois au premier semestre. Les prévisionnistes annoncent d'autre part un ralentissement de la croissance au premier semestre à 0,4%. Et puis les 120 évêques de France sont réunis en conclave à Lourdes. Jusqu'à vendredi, les responsables de l'Église évoquent des questions comme la lutte contre la pédophilie, mais également le sort des réfugiés, un sujet très cher au pape François.
France Info. 20h, 21h. Les Informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les Informés de France Info, nous parlons bien d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui ce matin a fait une petite reculette concernant la CSG. Vous savez, la CSG, c'est ce qui a mis une partie des retraités dans la rue. Il annonce donc son intention de corriger le dispositif, du moins pour 100 000 ménages. Christophe Alix, pourquoi le gouvernement est-il finalement plus arrangeant avec ses retraités plutôt que finalement d'autres personnes qui peuvent être dans la rue, qui manifestent? Il semble assez arrangeant, là.
Mais d'abord, je crois que... pas faire de la cuisine électorale, mais je crois quand
c'est
même que...
Un peu bien,
mais bon, les retraités ont quand même, je crois, assez massivement voté pour Emmanuel Macron.
Et c'est eux qui votent même le plus, en général.
Voilà, et ce sont eux qui votent le plus. Emmanuel Macron a très bien senti, effectivement, sur le terrain, que ça coinçait fort, parce qu'effectivement, comme le dit Robin, il a eu beau s'en expliquer plusieurs fois... ça passe pas bien. Alors voilà, il y a un petit geste, mais on voit bien qu'effectivement, sur le fond, la mesure n'est absolument pas remise en cause. Ce qu'il faut quand même peut-être ajouter, pour aller peut-être dans le sens de Robin, c'est que Valérie, vous me direz si c'est juste, c'est que globalement aujourd'hui en France, non mais comme vous êtes une spécialiste du budget et de la fiscalité, globalement en France, les revenus des actifs et les revenus des retraités sont globalement à peu près similaires. Et disons, le niveau de vie des retraités, le pouvoir d'achat des retraités ces dernières années, disons, est resté plutôt quand même relativement stable par rapport à celui qu'il était des actifs, notamment des jeunes générations. Et on peut-être, effectivement... alors après, effectivement, où est-ce qu'on met le curseur? Mais
c'est ça, c'est à voir.
La difficulté, c'est que ça s'applique sur le revenu fiscal de référence. Donc, il y a des femmes qui ont 700 euros de retraite par mois. Si leur mari a 1500 euros de retraite par mois, eh bien, les femmes ont, elles aussi, subi la hausse de la CSG, même avec une retraite à 700 euros par mois. Et elles l'ont vu. Elles ont perdu 30 ou 40 euros.
Parce qu'il y a une déclaration commune.
Oui. Mais vous imaginez une retraite de 700 euros par mois, on vous prend 30 euros.
Je suis désolé, on ne peut pas dire ça. On fonctionne en revenu fiscal de référence depuis des années. La fiscalité française est fondée autour de ça. On ne va pas tout d'un coup isoler la situation de chacun des deux parties.
Mais je n'ai pas dit ça. Vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que dans la communication du gouvernement, il avait été dit en dessous de 1400 euros, on ne vous prélèvera pas. Or, la réalité, c'est qu'effectivement, c'est bien le revenu fiscal de référence qui compte, c'est-à-dire le revenu du ménage. Et vous avez, parce que ce sont souvent les femmes qui ont les retraites les plus faibles en France, des femmes avec 700 euros de retraite par mois qui se sont vues prélever un montant de CSG supérieur à celui qui était au mois de décembre.
Le ménage est venu prélever ce montant de CSG. Et donc, c'est exactement ce type des 100 000 ménages qui sont, dans l'occurrence, dans la mesure visée par Édouard Philippe.
Vincent Trémollet.
Je crois, je vais citer quelqu'un de mon journal, Guillaume Tabar, qui disait qu'en matière fiscale, c'est comme la météo. Il y a la température et il y a le ressenti. Et je pense que le ressenti est beaucoup plus bas que ce qui se passe réellement. Et puis, ça s'accompagne d'autres choses. C'est-à-dire qu'on assiste à un espèce de festival depuis quelques semaines, comme si les inspecteurs des finances se disaient, ça y est, c'est ouvert. Toutes les propositions qu'on a depuis 20 ans dans nos tiroirs, on va les sortir. Donc, il y a eu la taxe foncière qui devait évoluer en fonction des revenus. Bon, ça, ils sont en train de reculer. Il y a ce rapport sur le quotient familial qui pourrait être supprimé. Ils sont aussi en train de reculer. Il y a cette histoire de CSG. Et j'avoue que je ne comprends pas bien la pratique politique. Je parle du gouvernement qui n'a que des démonstrations comptables qui sont peut-être réelles, mais avec lesquelles on ne peut pas convaincre une population de faire des efforts. C'est-à-dire que les démonstrations qu'il fait Emmanuel Macron devant la dame dans la scène vidéo que l'on voit ne suffisent pas à créer l'élan et le dessin et l'empathie nécessaires pour des efforts que l'on demande.
On ne peut pas utiliser l'analogie avec la météo entre le ressenti et la température ressentie et la vraie température. Les 8 millions de retraités français qui ont vu la CSG augmenter, c'est pas du ressenti, c'est la réalité.
C'est la réalité.
Donc on peut pas dire que c'est du ressenti.
Ce que je vous dis, c'est que...
Ce qu'ils observent aussi, c'est que 350 000 Français, allez, un peu moins de 1% des Français, ont bénéficié de la quasi-suppression de l'ISF. Comment vous voulez comment vous voulez qu'ils puissent accepter de payer de la CSG en plus, alors que près de 350 000 Français payent beaucoup d'impôts.
Comme si c'était deux groupes, étanches. Ce ne sont pas deux groupes étanches. Parmi les 8 millions, vous avez une partie des 350 000. Vous ne pouvez pas opposer les Français en disant il y a d'un côté les riches et les contribuables à l'ISF, d'un côté les retraités. Il y a des retraités qui sont contribuables à l'ISF, il y a des contribuables à l'ISF qui sont retraités. Ce sont des groupes qui sont fongibles et cette manière systématique d'opposer les gens, je suis désolé, mais c'est extrêmement dangereux d'un point de vue fiscal.
C'est qu'on va continuer à en parler. Dans un instant, on parlera même également.
C'est extrêmement dangereux.
Non, Valérie, on va en parler, vous inquiétez pas, je vous donnerai mais tout le temps, vous allez voir, c'est presque indécent. Voilà, on parlera même de transport gratuit, une nouvelle proposition d'Anne Hidalgo, la campagne municipale a commencé. Eh bien, les informés de France Info, on revient dans quelques minutes.
Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les paires de skis, les raquettes, la luge, l'appareil à raclette. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman ? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380 € par mois. LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman Oakwood 102 chevaux valable jusqu'au 31 mars 2018. Conditions sur mini.fr.
Une belle histoire avec Business France.
Pour la PME que je dirige, le développement à l'international est une priorité. Avec Business France, nous avons pu recruter les commerciaux et les technico-commerciaux dont nous avions besoin. Ce sont des VIE, volontaires internationaux en entreprise. Des jeunes de 18 à 28 ans dont les capacités et l'expérience font vraiment la différence. Résultat, un bond de 30% du chiffre d'affaires à l'export. Une belle histoire.
Renseignez-vous. 0810 659 659, coût d'un appel local. Ou export.businessfrance.fr.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Le froid va se maintenir demain, des gelées fréquentes le matin, moins 6 à 2 degrés, 2 à 6 pour le sud-est. L'après-midi, ce sera encore trop bas pour la saison avec 5 à 8 degrés, 8 à 10 tout de même de la Bretagne au sud-ouest et 10 à 13 près de la Méditerranée. Le ciel sera bien encombré du nord de la Seine vers la région parisienne, le nord-ouest. Beaucoup de nuages aussi près des Pyrénées, quelques flocons possibles. Quelques averses vers le sud des Alpes, le Var, la Corse sous forme de neige le matin vers 300 mètres, plutôt 500 mètres sur la Corse. Et puis ailleurs, on profitera d'un temps agréable, souvent bien ensoleillé. Il faudra encore composer avec le vent dans le sud-est, des rafales jusqu'à 90 à 110 km à l'heure pour Mistral et Tramontane.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Thomas Séché, bonsoir.
Bonsoir, les Républicains font bloc derrière Nicolas Sarkozy, humiliante et inutile. Voilà comment Laurent Wauquiez, président du parti, juge la garde à vue de l'ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy entendu depuis 8h ce matin à Nanterre, près de Paris, dans les locaux de la police judiciaire. C'est l'affaire du financement de sa campagne 2007 par le régime de Muammar Kadhafi, l'ex-dictateur libyen. Éric Ciotti, député des Républicains des Alpes-Maritimes, lui apporte lui aussi son soutien.
Nicolas Sarkozy s'est longuement expliqué sur cette procédure qui date de 11 ans. Il a lui-même engagé des actions contre ceux qui l'ont accusé, toujours à des moments clés de son engagement politique, au deuxième tour, entre les deux tours, l'élection présidentielle de 2012, à la veille d'un débat essentiel lors de l'élection primaire. Il a engagé des procédures en diffamation contre ceux qui ont monté cette affaire. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il fera triompher la vérité en toute clarté, en toute transparence. Et en cet instant, je pense à lui et je lui redis mon affection et mon amitié.
La garde à vue de Nicolas Sarkozy peut durer jusqu'à jeudi matin. Brice Hortefeux est également entendu par la police en audition libre. La grève jeudi, la RATP annonce un trafic peu perturbé en région parisienne. Le métro, les bus et les trams rouleront quasi normalement entre 3 trains sur 4 et 2 sur 3 sur le RER A et le RER B. On attend encore les prévisions de trafic à la SNCF. Facebook à nouveau dans l'œil du cyclone. Les données de 50 millions d'utilisateurs auraient été détournées détourné par une société britannique proche de Donald Trump. En pleine campagne présidentielle américaine, le patron de Facebook va devoir s'expliquer. Mark Zuckerberg est convoqué par une commission parlementaire britannique et invité par le Parlement européen. Après le triomphe des urnes, les félicitations de Donald Trump, Vladimir Poutine a reçu un coup de fil du président américain après sa réélection à la tête de la Russie. Les deux chefs d'État ont évoqué une rencontre prochaine pour désamorcer les tensions. Un jeune de 20 ans grièvement blessé par balle à Marseille, touché 4 fois en plein après-midi dans les quartiers nord. La piste du règlement de compte est privilégiée. Un Sud-Africain pour entraîner le Stade français la saison prochaine, Heinke Meyer, c'est l'ancien sélectionneur des Springboks. Il cumulera les casquettes d'entraîneur et directeur sportif au sein du club parisien si celui-ci parvient à se maintenir en top 14 au terme de cette saison. 20h33, le retour des informés et Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est plein d'allégresse hein, qu'ils entament tout simplement cette deuxième demi-heure. L'un d'entre eux a même dit « Tiens, c'est déjà Noël ?» Mais non, pas encore en tout cas. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Valérie Rabault, députée socialiste de Tarn-et-Garonne, l'économiste Robin Rivaton, Vincent Trémollet du Figaro et Christophe Alix de Libération. On a beaucoup parlé, hein, bien sûr, de la garde à vue de Nicolas Sarkozy. On attend d'avoir d'autres développements pour pouvoir continuer. En attendant, on va continuer à parler colère, puisque jeudi, c'est une journée de mobilisation sociale importante. Dès ce soir, on connaît déjà les modes de perturbation. On sait que à la RATP en Ile-de-France, ça sera assez peu suivi, apparemment. La SNCF, elle, ne prend plus de réservation pour les jours de grève en avril. Vous le savez, ça sera 2 jours sur 3. On parlait à l'instant de colère, de retraite et de cheveux bleus, hein, juste avant la pause, puisque les retraités sont appelés à rejoindre le mouvement de protestation. Jeudi, beaucoup de branches professionnels sont donc appelés à manifester, notamment dans les transports. Et à leur côté se trouveront la totalité d'ailleurs des partis de gauche. Et vu l'ambiance actuelle entre ces formations, on se dit que le principal travail des CRS, ce serait que ces gens ne se croisent pas, en fait. Hein. Donc il y aura l'extrême gauche, écologiste, France Insoumise, le mouvement de Benoît Hamon, le Parti communiste français, et même le Parti socialiste, puisque le tout frais moulu futur premier secrétaire Olivier Faure a annoncé que sa formation participera aux manifestations de jeudi. Et ça, eh bien, figurez-vous, ça a bien fait pouffer ce matin le Premier ministre Édouard Philippe. On l'écoute.
Quelque chose qui n'a pas été décidé par moi, qui a été décidé par le gouvernement précédent, sous le président de la République précédent, l'ouverture à la concurrence. Je me marre aujourd'hui quand je vois, pardon, je devrais pas dire je me marre, je m'amuse aujourd'hui à voir des députés socialistes qui vont aller défiler dans la rue jeudi, alors qu'ils soutenaient la majorité qui a ouvert à la concurrence le dispositif ferroviaire.
Voilà, Édouard Philippe ce matin sur BFM, Valérie Rabault.
Mais je vais pas répondre, je me marre, comme a dit le Premier ministre. Mais il se trouve que les décisions d'ouverture, il me semble qu'elles ont été prises bien avant le précédent quinquennat de François Hollande. Donc je pense que le Premier ministre pourrait regarder exactement les dates.
Oui, d'accord.
Ça serait plus juste.
Parallèlement à ça, c'est européen, exactement.
Et c'est bien avant le quinquennat de François Hollande. Parallèlement à ça, l'ouverture à la concurrence ne dit pas qu'il faille remettre en cause le statut des cheminots à la SNCF. Donc je pense que là, le Premier ministre botte un peu en touche.
Est-ce qu'il y a une logique de vous voir finalement, vous, dans la rue? Parce que concernant la réforme du travail, il n'y avait pas eu d'appel au Parti Socialiste. Là, Olivier Faure a dit, voilà, moi, ma formation, elle sera présente dans la rue. Valérie Rabault, est-ce que finalement, ce n'est pas un peu contradictoire? Vous vous rajoutez finalement à cette colère?
Non, mais là, il y a une question du pouvoir d'achat qui est largement posée. Il y a une question du détricotage d'un certain nombre de statuts. Enfin, on avance sous forme d'ordonnance avec le gouvernement, des textes qui sont quand même assez peu discutés, assez peu débattus, et surtout, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Enfin, donc, il est absolument normal que le Parti Socialiste participe à ce mouvement.
Robin Rivaton, quand vous voyez finalement aujourd'hui toutes ces branches professionnelles hein, qui vont manifester, notamment les fonctionnaires, on a vu, il y a certaines écoles aussi qui vont fermer. Vous pensez que ça peut être un moment important, je veux dire, dans ce quinquennat, que ça peut être un moment de frottement, d'une guerre de l'opinion, justement, entre le gouvernement et les syndicats?
pour l'instant, l'ensemble des mouvements sociaux qui ont été lancés contre les réformes du gouvernement ont quand même assez peu mobilisé. On l'a vu lors de l'automne. La question aujourd'hui, à mon avis, elle n'est pas tellement celle de ces mouvements sociaux. On voit que l'appétence à la grève reste quand même assez faible, et à la manifestation aussi. Le sujet, c'est effectivement plus ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire un mécontentement général de personnes ou de groupes qui sont aujourd'hui des piliers de ces 50% qui soutenaient l'action du gouvernement. Et même pour faire une petite nuance par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ces gens-là n'étaient pas des électeurs initiaux d'Emmanuel Macron. Les plus de 65 ans se sont portés sur François Fillon très largement, quasiment 40%, mais ils l'ont rejoint au fil des derniers mois. Ils l'ont rejoint via un certain nombre de mesures sur l'éducation, ils l'ont rejoint via un certain nombre de mesures sur la loi travail.
Et puis parce que Marine Le Pen est souvent un épouvantail aussi pour les personnes les plus âgées, voilà,
Sans aucun doute, et qui ont finalement rejoint un peu ce gouvernement et qui l'ont fait passer. Vous êtes élu avec 25%, vous êtes 25% en premier tour. Si vous avez 50% de soutien, c'est bien qu'il y a quelque part, il y a des gens qui ne vous ont pas élu au premier tour, qui peuvent vous avoir choisi au deuxième, mais qui en tout cas vous soutiennent dans votre action. Et ce sont ces gens-là, le risque d'effritement quelque part de la position est le plus fort et le plus risqué, beaucoup plus que des catégories socio-professionnelles qui sont de toute façon assez naturellement, par idéologie ou par conviction personnelle, opposées à l'action du gouvernement.
Vincent Trémolle, alors il y a juste une chose, c'est que je sais que vous aimez bien l'histoire, hein, forcément le 22 mars, voilà, c'est, je ne sais pas si c'est choisi au hasard, mais c'est 50 ans, le 22 mars 1968.
C'est peut-être les retraités de mai 68.
Exactement, non, mais voilà, entre autres, exactement,
qui font leur vie magnifique de manifestants. Puis si on fait de l'histoire plus récente, de l'histoire immédiate, il y a 95, et moi je crois qu'on n'est pas en 95 du tout, et notamment vis-à-vis de la SNCF, c'est-à-dire qu'il y a un désamour maintenant entre les Français et la SNCF. Moi je pratique la SNCF de façon quotidienne, et le fait que les trains marchent de moins en moins bien, qu'il y ait de plus en plus de retard, qu'il y ait de plus en plus de trains supprimés, qu'il y ait des lignes qui ferment, fait que ce service pour lequel les gens avaient un attachement réel et profond est considéré comme un service qui se dégrade. Donc je ne crois pas qu'il y aura des soutiens aux cheminots.
Ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est suppression du statut de cheminot, en quoi ça arrange le service? Mais c'est là où le gouvernement, il y a beaucoup de com.
C'est la com du gouvernement, mais c'est...
Non, pas supprimé, non, mais pour les nouveaux
entrants. Il va changer pour les nouveaux venus.
Le gouvernement répond, je pense qu'il y a un consensus là-dessus, ce qu'on, certains considèrent comme une injustice ou un privilège. Bon, après, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a besoin d'une grande réforme fondatrice, mais elle n'arrive pas très bien pour lui. C'est-à-dire qu'il y aura une opposition face à lui. Je ne crois pas qu'il y aura une adhésion très profonde derrière lui, notamment de ceux qui l'ont élu ou de ceux qui pourraient l'élire une deuxième fois. Ils vont regarder ça en se disant cette réforme était nécessaire, mais ils ne vont pas oublier les sujets dont on a parlé tout à l'heure, qui sont les hausses d'impôts sur d'autres sujets.
Valérie Rabault, vous entendez?
Même si le gouvernement réforme le statut des cheminots, ça n'améliorera pas la situation de la SNCF, qui a une dette extrêmement importante, qui arrête d'investir. Donc ce que vous dites sur les trains qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, ça c'est vrai. C'est vrai, il y a une forme d'exaspération des Français. Pour tous ceux qui utilisent le train, c'est extrêmement pénible. Mais vouloir cibler et faire croire aux Français que réformer le statut du cheminot fera que les trains fonctionneront mieux...
Je dis que les Français ne seront pas derrière les cheminots comme les représentants d'une entreprise.
J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Mais ce que veut faire croire le gouvernement, c'est qu'en réformant le statut des cheminots, la SNCF fonctionnera mieux. Alors ça, c'est juste faux.
En conservant, je ne suis pas sûr que ça aille beaucoup mieux non plus.
Allez, on va en parler dans un instant. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
La SNCF suspend la vente de billets pour tous ses TGV et intercités sur les 12 jours de grève prévus en avril. Les voyageurs sont invités à reporter leur voyage. Une précaution avant cette grève contre la réforme du ferroviaire. Avant cela, jeudi, c'est la grève de la fonction publique et 30% des vols devraient être annulés en France. Les contrôleurs aériens déposent eux aussi leur préavis. Peu de perturbations à attendre en revanche dans les transports en commun parisiens, selon la RATP. Nicolas Sarkozy, toujours en garde à vue depuis ce matin. Elle pourrait durer d'ailleurs 48 heures. L'ancien président de la République interrogé dans les locaux de l'Office anticorruption de Nanterre. Le chef de l'État, jusqu'en 2012, doit s'expliquer sur un possible financement de sa campagne électorale de 2007 par de l'argent libyen sous l'ère Kadhafi. Le bilan ne cesse de s'alourdir après ce tir de roquette sur la banlieue de Damas, au moins 35 morts. La télévision d'État accuse les rebelles. D'autre part, 29 civils ont été tués dans des bombardements à Douma, fief rebelle dans la Ghouta, selon l'Office syrien des droits de l'homme. Et puis Israël envisage de poursuivre Twitter en justice. La ministre de la Justice considère que le réseau social sert de plus en plus les organisations terroristes, à commencer selon elle par les Palestiniens qui inciteraient la violence à la violence sur les réseaux sociaux.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, vous l'avez entendu, en effet, la SNCF ne prend plus de réservation pour les jours de grève en avril. Je précise juste que cette grève qui, normalement, pourrait durer jusqu'en juin, c'est un peu compliqué parce que si vous devez voyager en mai et en juin, sur le porte-parole de la SNCF, il est trop tôt pour prévoir. Donc, de fait, les réservations restent ouvertes aux jours concernés par la grève. Donc, si elle doit durer jusque-là. Donc, faites très attention, en tout cas, si vous prenez vos billets de train, Christophe.
C'est encore un message très clair.
Voilà, Christophe Alix.
Et alors, il risque d'y avoir un problème parce que, en fait, comme le remplissage des trains se fait en fonction de l'offre et de la demande, on risque d'avoir une explosion des tarifs les jours où il n'y aura pas de grève.
Pour l'instant, la SNCF dit que c'est pas vrai. Hein,
mais... Voilà, oui, non, mais ça fonctionne comme ça, comme pour remplir les avions. Voilà, c'est le.
Il y a un risque en effet d'augmentation.
Il y a un risque, oui, que bah, oui, d'augmentation de tarifs parce que la demande va être beaucoup plus forte les jours où il n'y aura pas de grève.
Oui. Ouais. Robert Ribaton.
C'est encore pire. La SNCF, dans les avions, quand il faut les remplir, on baisse les prix. À la SNCF, on ne fait que monter les prix. L'algorithme met toujours des prix plus hauts.
Ben, est-ce que non, mais alors justement, aujourd'hui, on le voit, il y a cette réforme qui est la plus symbolique. On voit aussi qui a les autres aujourd'hui véritablement. Il y a une chose qui était assez intéressante. Il y a des fonctionnaires qui seront notamment mobilisés demain. Là, il y a l'INSEE qui a fait toute une analyse sur les taux de croissance. Ça ira mieux, etc. Une croissance de 0,4%. Il prévoit voilà plus d'emplois, mais tout de même 21 000 destructions de postes dans le secteur non marchand, c'est-à-dire la fonction publique. Est-ce que elle est ciblée cette fonction publique par le gouvernement?
Alors essentiellement un sous-segment de l'emploi public qui était les emplois aidés. Hein.
C'est ça exactement. Gros, la bénéficiaire de
contrats. C'est quand même le très gros. Volume, donc il y a très peu de réduction d'emplois permanents, donc des gens qui sont des titulaires de la fonction publique, et c'est d'ailleurs même ce qu'on peut considérer comme un risque d'un autre côté, hein, c'est-à-dire que cette absence de baisse de la dépense publique, parce que ce qui fait hurler et ce qui met aujourd'hui un certain nombre de personnes dans la rue, on peut le voir avec un autre prisme aujourd'hui, qui est une faiblesse de la réduction de la dépense publique et de la réduction de l'emploi public.
Elle sera plus concentrée sur la fin du quinquennat.
Qui bah, nous menace surtout si jamais il y a un ralentissement économique en 2019 ou 2020, comme c'est quand même attendu aujourd'hui assez largement. Donc la réduction de l'emploi public, elle est quand même assez limitée. Ce qui sera intéressant, c'est de voir qu'au-delà des professions assez classiques que sont les personnes de la SNCF, les contrôleurs aériens, de voir quelle autre fédération ou quel autre mouvement rejoindront. Est-ce que dans les hôpitaux, le mouvement sera très suivi? Pour l'instant, c'est pas ce qu'on
entend. Peut-être
pas
les écoles aussi, voilà.
Ce qu'on entend, hôpitaux et écoles, qui sont quand même deux gros bastions et deux gros facteurs de résistance et qui posent des vraies questions sur la capacité à avoir un mouvement commun, ce qui n'a pas été du tout le cas aujourd'hui.
Valérie Rabault, une chose, le Premier ministre matin a dit, à propos, vous savez, on dit souvent, il y a trop de réformes en ce moment. Le Premier ministre a dit qu'il n'était pas un fou furieux de la réforme. Est-ce que vous, en tant que député, vous avez l'impression qu'il y a trop de réformes aujourd'hui, ce qui se passe? Quand on dit, Emmanuel Macron a dit, on m'a élu pour que ça bouge, pour qu'il y en ait, c'est possible qu'un président puisse faire trop de réformes?
Ce qui est sûr, c'est qu'il annonce beaucoup de choses aujourd'hui, qui parfois sont contradictoires. Avec des messages, tout à l'heure vous l'avez indiqué, il veut doubler le nombre d'élèves français dans les lycées français, dans les lycées français.
Sur la francophonie, voilà aujourd'hui.
Et il y a deux mois, dans le budget que la majorité a voté, il y avait une baisse du budget pour les lycées français. Donc, voyez-vous, c'est un peu contradictoire. Alors, la réforme, il y a beaucoup d'annonces, c'est vrai, il faut quand même le dire, beaucoup d'annonces, mais qui sont pas toutes cohérentes les unes avec les autres. Donc ça donne un peu le tournis.
Allez, on va bien sûr continuer à en parler. Et puis bien sûr, demain, on parlera plus largement encore de ce mouvement de grève qui s'annonce donc pour jeudi. Mais là, je ne sais pas si, comme moi, vous sentez, il y a un petit parfum qui est à la fois violent et délicat, hein, lourd et altier, surprenant et redondant, mais... Attendez, ça ne serait pas la campagne des municipales qui commence? Incroyable, on frétille un peu et on remue les hanches en entendant les cloches résonner dans le paysage politique français. On est incorrigible, je suis désolé, hein, mais nous sommes totalement accros aux urnes. En 2019, élection européenne, et en 2020, élection municipale. Et oui, alors certains édiles vous diront, oh mais c'est loin, je n'y ai pas réfléchi. D'autres plus renards vous diront, oh mais c'est loin, je n'y ai pas réfléchi. Mais j'ai quand même une idée. Et ça, c'est le cas d'Anne Hidalgo. Dans une interview au journal Les Échos, la maire de Paris a annoncé réfléchir à la gratuité des transports en commun. Si cela devient le cas, Paris rejoindrait Gap ou Châteauroux au rang des agglomérations françaises des transports gratuits. Une trentaine, hein, d'ailleurs, dans le pays. Mais comment financer tout cela? C'est la question, d'ailleurs, que s'est posée ce matin le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
Vous savez, la gratuité, à la fin, il y a toujours quelqu'un qui paye. Je ne connais pas de service qui soit entièrement gratuit. Et on peut financer, et c'est parfaitement légitime, par l'impôt, par des taxes, bref, par un mécanisme qui permette de dire que demain, on circulera gratuitement. Donc, j'ai toujours un doute sur le caractère électoraliste ou pas, à 2 ans d'une élection, au moment où on publie un livre programme ou un livre bilan, et où on sait qu'elle est aujourd'hui la candidate déclarée à la mairie de Paris à sa propre succession en 2020.
Ouais, Benjamin Griveaux, ce matin sur France Inter, c'est un coup électoral, Vincent Trémollet.
Bah, c'est magique. Moi, je trouve que c'est passionnant, le mandat de d'Anne Hidalgo. On regarde ça, il faut regarder ça avec enthousiasme et bienveillance. Et le rapport au transport, qui est quand même assez compliqué, puisqu'après avoir créé un embouteillage permanent dans Paris, après avoir fait en sorte que ce qui marchait à peu près, c'est-à-dire les vélos, ne marche plus et qu'on est dans
c'est provisoire.
C'est provisoire, mais c'est un provisoire qui dure quand même depuis quelques semaines. Il y a maintenant cette proposition sortie de nulle part, à part d'une idée de conseiller, je pense, pour essayer de se refaire électoralement. Je vois pas comment elle peut être appliquée. Je vois pas à qui. Ces transports sont gratuits pour qui ? Parce qu'il faut payer un impôt, mais donc c'est les Parisiens qui vont payer.
On va en parler dans un instant.
Mais est-ce que les gens qui l'utiliseront ailleurs ? Donc je suis un peu sidéré, mais en fait, elle nous a inventé tellement de choses que ça participe de la poésie, de l'anidalguisme.
Alors, Christophe Alix, alors, il faut juste préciser une chose, c'est que les transports, hein, c'est la compétence de la région, donc ce n'est pas Anne Hidalgo. Ouais. Mais pourtant, est-ce que c'est réaliste, ce qu'elle dit, Anne Hidalgo ? Là, elle lance juste une étude, hein, c'est pas fait, bien sûr. Est-ce que c'est réaliste ?
Je ne sais pas s'il faut le voir comme ça. Il faut, enfin, ce qui est sans doute et ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est de se poser la question de savoir ce que va être le transport du futur. Est-ce que va être le transport du futur à un moment où il y aura beaucoup moins de voitures dans Paris ? Parce que tôt ou tard, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer dans la plupart des grandes villes. Et donc la question est un petit peu de se poser si à se poser est un petit peu de savoir si à l'avenir. Hein, et d'ailleurs, Anne Hidalgo le dit, que donc on se projette quand même dans une... Est-ce qu'on sera plutôt sur un transport à la carte, à la demande, dans des voitures automatisées, par exemple, qui sera individualisé, ou est-ce qu'il vaudra mieux le faire dans des transports collectifs.
Collectif, ouais.
Et on parle souvent aussi de multimodalité, etc., que les gens pourront avoir accès à différents... Donc, l'idée de se poser la question n'est pas idiote du tout. Il y a une ville qui est Tallinn, en Estonie, qui l'a mis en place et qui d'ailleurs réserve cette gratuité aux gens qui payent des impôts locaux. Le cas des villes françaises est très différent parce que là, on met souvent en place la gratuité parce que ce sont des endroits où on a besoin de maintenir un maillage urbain et où le pouvoir d'achat est très faible. Et donc c'est... Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'interdire, il ne faut pas avoir de tabou
de réfléchir
par rapport à ces questions.
Là-dessus.
Et je ne crois pas que Anne Hidalgo veut mettre en place la gratuité des transports demain à Paris.
Alors une chose quand même, tout de même, Romain Rivaton, on entendra après une personne qui va vous proposer justement un financement. Juste quelques chiffres, les transports publics, ça coûte 10 milliards par an en Ile-de-France. Les usagers n'en payent directement que 28%, voilà, donc 2 milliards via les billetteries à Londres. Par exemple, ça coûte aussi environ 10 milliards, mais les usagers en payent plus de 45%. Donc ça voudrait dire qu'il normalement, donc faudrait payer qui ? On ne sait pas qui paye.
Oui, alors c'est très sympathique de comparer Paris à Gap ou à Tallinn. Paris, c'est la quatrième ville, la plus grande ville au monde, un peu comme Londres. 10 milliards d'impôts d'investissement dans le transport chaque année, c'est le strict minimum. On voit bien, pour vous parler tout à l'heure des lignes de Transilien, on voit bien l'investissement qu'il faut faire pour renouveler le matériel roulant. On est en train de construire un métro dont on a décalé les points d'arrivée, les lignes 17 et lignes 18 de ce métro du Grand Paris Express, alors qu'elles sont éminemment nécessaires. Et on ne sait même pas comment on financera l'opérationnel de ce métro une fois qu'il sera construit. Donc toute proposition visant à réduire ces 10 milliards. En fait, ces propositions, elles sont anti-écologiques, puisqu'elles veulent favoriser le transport individuel plutôt que le transport collectif. Deuxièmement, elles sont anti-économiques, puisqu'elles ne permettront pas demain de maintenir la qualité de ces lignes. Et voire même, elles peuvent menacer la sécurité des personnes, puisque demain, si on n'a pas la capacité à faire des équipements ferroviaires de qualité, il se passe des catastrophes ferroviaires comme on les a connues en Ile-de-France. Donc, toutes ces propositions, et encore celles-ci, elles sont extrêmement dangereuses. Et donc, je trouve absolument incroyable d'entendre ça de la part d'une édile de la ville.
Mais Anne Hidalgo n'a pas dit que ce serait gratuit pour tout le monde.
Alors justement,
elle n'a pas dit que ça n'aurait pas un coût.
Mais ne coupez pas la surprise d'après, c'est incroyable.
Elle pourrait faire aussi des stations de métro festives comme les quais.
Bon alors écoutez, en tout cas, dans un instant, on va continuer à parler de cette proposition. Anne Hidalgo, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Cambridge Analytica annonce la suspension de son patron. Ce cabinet d'analyse aurait utilisé illégalement des données personnelles de millions d'utilisateurs sur Facebook pour favoriser la campagne de Donald Trump. Le patron du réseau social, lui, est invité à s'expliquer devant le Parlement européen. Mark Zuckerberg devra s'expliquer prochainement sur ce scandale. Nicolas Sarkozy, toujours en garde à vue, et depuis 9h ce matin, l'ancien chef de l'État doit s'expliquer sur un financement possible par la Libye de sa campagne de 2007. Le site Mediapart avait publié publié en 2012 un document avançant que le régime de Kadhafi avait promis 50 millions d'euros aux candidats de la droite à l'époque. Un homme de 20 ans a été atteint par au moins 4 balles cet après-midi dans les quartiers nord de Marseille, sans doute un règlement de compte. Son pronostic vital est engagé. Depuis janvier, 6 personnes ont été tuées par balles dans les Bouches-du-Rhône. Une nouvelle fusillade dans un lycée des États-Unis, cette fois dans le Maryland. Un tireur, un lycéen, est mort des suites de ses blessures. Il a eu le temps avant d'être neutralisé de blesser gravement 2 autres jeunes. Et puis 2 200 000 euros, c'est la somme que touchera le vainqueur homme et femme de Roland-Garros début juin à Paris, une hausse de 100 000 euros. Le perdant au premier tour du tournoi de tennis recevra lui 40 000 euros, c'est 5 000 euros de plus que l'an dernier.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, doit-on payer pour, non pas tousser, mais prendre son bus, son métro, son RER, son peut-être même transilien. Alors là, c'est encore autre chose. En tout cas, Anne Hidalgo a lancé une proposition, peut-être, pourquoi pas, rendre gratuits les transports publics. Alors ça ne concerne dans cette réflexion finalement pas que Paris ou l'Île-de-France, mais toute la France, et aujourd'hui on en parle beaucoup également en Europe. Valérie Rabault, est-ce que ça vous semble totalement irréaliste ou c'est une réflexion aujourd'hui qu'on doit avoir par rapport au transport public?
Elle le positionne comme une réflexion, c'est clairement dit, de pour envisager l'évolution des transports, que ce soit effectivement ce que vous dites, individuel à la demande ou transport commun. Collectif. Mais quand il y a eu la proposition aussi d'avoir un pass Navigo à un prix unique sur toute la région Île-de-France, pareil, on avait entendu les mêmes types de réactions et puis finalement je constate que...
Il n'est pas gratuit.
Je constate que Valérie Pécresse, qui n'y était pas favorable, l'a gardé. Donc, on peut aussi, le rôle d'un élu, c'est de gérer au quotidien, mais aussi de se poser des questions sur l'évolution.
Cet élu vit dans une surréalité, c'est-à-dire que ce qu'elle décrit, c'est comme si tout fonctionnait parfaitement, mais elle ne pratique pas ce qu'elle décrit. C'est-à-dire les transports qui marchent mal, les embouteillages qui se développent, les quais qu'elle a laissés pour les cyclistes sur lesquels il n'y a pas de cyclistes, on n'en voit pas. Mmh. Et donc, elle décrit une surréalité magnifique, une espèce de ville idéale, de métropole idéale du monde de demain, mais la réalité des Parisiens et des banlieusards, elle n'est pas celle-là. Et c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, que son mandat est en péril et qu'elle va avoir beaucoup de mal à être réélue.
Moi, ce que je trouve quand même très curieux...
Et sans parler de la propreté.
Chacun a le droit d'avoir son opinion sur le bilan à la mairie de Paris, mais je suis quand même frappée que les femmes politiques et les femmes maires, et Anne Hidalgo en particulier, aient des critiques aussi acermes que aucun homme. Je me permets de le dire, qu'aucun homme, en tout cas, n'a reçu en ces termes.
Alors, Robert Rivaton. Sans parler de savoir qui est la personne, si c'est un homme ou une femme, la question est celle qui, aujourd'hui, heurte un peu le Paris et l'intégralité des gens qui vivent autour. C'est que Paris, c'est la seule ville au monde à avoir un cœur aussi concentré et qui est une entité unique qui a un pouvoir de décision. Dans les autres villes au monde, vous allez à New York, il y a le maire de New York, et après, il y a 5 quartiers dans New York qui ne décident pas plus que le maire de New York ne décide. Vous allez à Londres, il y a une seule personne qui décide. Et c'est vrai dans toutes les villes. Ce qui fait que la décision, quand elle est prise par le maire de New York, elle est prise pour tous les New Yorkais, pour les 8 millions de personnes qui sont sur New York. Quand la décision est prise par la maire de Paris, elle concerne 2 millions de personnes. Et autour, il y en a 10 autres qui vivent, qui font en général des longs transports et qui n'ont pas envie, eux, de devoir supporter, parce qu'il y aura un péage urbain aux portes de Paris, financer la gratuité pour les gens qui auront la chance.
C'est pour ça qu'il va falloir changer aussi.
Parce qu'on serait vivre à la fin de l'année. C'est que ce soit une mairie socialiste la ville. Qui ait restauré les octrois, donc les péages, à l'entrée de Paris, qui n'existaient pas depuis l'ancien régime. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Là,
et d'ailleurs, que la ville de Paris soit le vivier de ce qu'il reste du socialisme, en dit beaucoup sur le lien des socialistes avec les catégories populaires.
J'ai terminé. Vous voulez répondre, Valérie Rabault ?
Je suis...
Mais c'est là... pas tout pour vous. Hein,
non, mais j'entends bien. J'entends bien ce que vous avez dit, mais elle dit qu'on engage une réflexion. Et vous en avez tiré tout un tas de conclusions qui n'étaient pas dans les propositions qu'elle a mises. Il faut quand même juste lire ce qu'elle a proposé, ce qu'elle a avancé.
J'ai parti de ça, j'ai élargi.
Oui, vous avez beaucoup élargi.
Un petit peu. Une dernière chose, Christophe Alix, on voit quand même au cœur de ça, on l'a dit, la région, la ville devraient marcher ensemble, comme partout. Seul problème, c'est qu'en fait, il y a une guerre en ce moment entre la patronne de la région, qui est Valérie Pécresse, et Anne Hidalgo, et on voit que derrière, c'est ça, en fait, véritablement, qui bloque.
Bien sûr, il y a une guerre en ce moment, et de toute manière, et justement, quand on prend l'exemple des autres capitales dans le monde, de ce qu'on appelle les villes-monde, hein, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, il y a Tokyo, il y a Paris, il y a New York, il y a Londres, il va falloir que la gouvernance de la ville de Paris, de la métropole de la région, évolue considérablement dans les années qui viennent. Enfin, l'espèce de guéguerre entre Paris, la région,
il y a des pas nouvelles, hein, parce qu'avant, quand c'était à gauche, à droite, c'est pareil.
C'est absolument ridicule, ça ne pourra pas continuer comme ça.
Rapidement,
on parlait de réforme, on attendait pour le 25 octobre la révision du Grand Paris, nous sommes aujourd'hui le 22 mars.
Oh, mais ça prend du temps, vous savez tout ça, hein, voilà, en même temps. Allez, en tout cas, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci beaucoup Valérie Rabault d'être passée ce soir. Merci Romain Rivaton. Vincent Trémollet, la une du Figaro demain.
C'est sur les Kurdes que nous avons oubliés alors qu'ils se sont battus en première ligne contre l'État islamique pendant des années.
Bien sûr, la une de Libération,
sur Nicolas Sarkozy, retour aux affaires.
Très bien, voilà, bien sûr.